France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, Taïwan et la Chine. En décembre 1949, le gouvernement nationaliste chinois du général Chiang Kai-shek est contraint à l'exil par l'avancée des troupes communistes de Mao Tse-tung. En retraite stratégique sur l'île de Taïwan, alors possession chinoise, le général ne renonce jamais à l'idée de retrouver le contrôle sur la totalité de la Chine, pas plus que la Chine de Mao ne renonce à son contrôle sur Taïwan. Après 70 ans et d'innombrables évolutions dans la géopolitique mondiale, comme de profonds bouleversements politiques internes aux deux pays, cette situation semble aujourd'hui inextricable. Elle pourrait également mener la région au bord d'un conflit que beaucoup annoncent inévitable. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Antoine Denet, journaliste, il est l'auteur de l'ouvrage « Chine, le grand prédateur » et du dossier chinois « Portrait d'un pays au bord de l'abîme », ouvrage collectif paru fin octobre 2022 au Cherche Midi. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Franck Cognard, chargé de production Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Cilia. Mardi 2 août 2022, aéroport de Taipei. L'avion militaire dans lequel se trouve Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et troisième personnalité de l'État après le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, vient de s'opposer sur le tarmac de l'aéroport de la capitale de la République de Chine, le nom officiel de Taïwan. Annoncée depuis plusieurs jours, la visite officielle de Nancy Pelosi déclenche une intense passe d'armes diplomatique entre Washington et Pékin. À sa descente de l'avion, la parlementaire marque l'histoire. Elle est la première personnalité politique américaine à effectuer une visite officielle à Taïwan depuis 1979 et la reconnaissance de la République populaire de Chine par les États-Unis. Son séjour sur l'île est court, à peine 24 heures. Mais il est marqué par des rencontres hautement symboliques. Avec le Parlement démocratiquement élu de Taïwan d'abord, puis avec sa présidente Tsai Ing-wen, cible récurrente du président chinois Xi Jinping, ainsi que plusieurs dissidents chinois et Hong Kong. Elle effectue également une visite du Musée national des droits de l'homme. De l'autre côté du détroit de Taïwan, donc en Chine continentale, les autorités de Pékin fulminent. Cela fait déjà plusieurs jours que le président Xi Jinping menace son homologue américain de représailles s'il ne contraint pas Nancy Pelosi à annuler sa visite. Résultat, la situation s'envenime et le détroit de Taïwan devient le théâtre d'une importante démonstration de force des marines chinoises, américaines et taïwanaises.
Direction Pékin à présent, au lendemain de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. La Chine vient de lancer ses manœuvres militaires. Stéphane Pambrin, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est l'ampleur de ces exercices militaires ?
Alors on parle déjà des plus importants exercices militaires jamais menés par la Chine. Ils vont durer 72 heures. Elle mobilise ses manœuvres, un formidable arsenal militaire, des bombardiers, les derniers chasseurs furtifs J-20, des tirs de missiles hypersoniques DF-17 et l'ensemble des forces navales, aériennes et de débarquement amphibie. Les militaires vont mener des frappes à munitions réelles et une opération de blocus de Taïwan, un blocus déjà étanche puisque toute la région est désormais bouclée, les navires marchands très nombreux dans le détroit de Formose ne passent plus et les compagnies aériennes ont reçu l'ordre de contourner la zone. Taïwan est donc de facto coupé du monde et le sera pour au moins 3 jours. 6 zones ont été identifiées pour ces attaques qui encerclent Taïwan parfois à seulement 20 km de ses côtes.
Pour comprendre comment cette visite officielle a ravivé les braises d'un conflit qui couve depuis plus de 70 ans, il faut comme souvent regarder dans le rétroviseur et se plonger dans l'histoire sinueuse de l'île de Taïwan et de son imposant voisin chinois. Découverte au XVIe siècle par les explorateurs portugais, l'île de Taïwan, baptisée alors Formose, est longue de 400 km de large sur seulement 140 de long. Située à 180 km des côtes de Chine continentale, elle offre plages exotiques, plaines fertiles et imposants reliefs montagneux. Peu après sa découverte, Taïwan devient rapidement un comptoir contrôlé par la Compagnie des Indes hollandaises. Les commerçants bataves sont les premiers à encourager l'immigration chinoise sur cette terre, originellement peuplée par des tribus austronésiennes venues des îles du Pacifique. L'Empire chinois prend le contrôle de l'île en 1683 et l'intègre officiellement à son territoire comme province administrative en 1887. Mais au terme de la première guerre sino-japonaise, l'Empire chinois cède l'île au Japon en 1895. Intégrée dans l'empire colonial contrôlé par Tokyo et idéalement placée dans la mer de Chine méridionale, Formose est érigée en colonie modèle. Les Japonais développent les infrastructures, améliorent considérablement le rendement agricole et misent sur l'industrie comme sur l'éducation. Autrement dit, Taïwan suit un chemin radicalement opposé de son grand voisin chinois. En 1912, la dynastie impériale est renversée par un mouvement révolutionnaire nationaliste. La République de Chine est née. En 1926, Chiang Kai-shek, le chef des troupes armées révolutionnaires, prend la tête du Kuomintang, le parti unique qui dirige le pays. Militariste et autoritaire, celui qu'on appelle le généralissime se lance alors dans une lutte acharnée et violente pour le contrôle du territoire face aux autres forces politiques du pays, dont la principale, le Parti communiste chinois. En 1937, la République de Chine, toujours tiraillée d'intérieur, fait face à l'invasion de l'éternel rival japonais. Mais au terme de la Seconde Guerre mondiale, ce sont bien les alliés de la Chine de Chiang Kai-shek qui ressortent vainqueurs.
C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon. Voici ceux qui vont signer la capitulation totale des nazis d'Extrême-Orient. Cortège curieux et hallucinant qui mêle le dramatique au saugrenu. Autour de M. Shigemitsu, nouveau ministre des Affaires étrangères, les jaquettes coudoient les uniformes. Le Japon militariste a vraiment dû céder. 10 minutes ont suffi et tout à coup des nuées d'avions couvrent le ciel. Convergent vers la terre japonaise que ne protège plus la montagne des dieux, le mont Fujiyama. Aujourd'hui, le monde entre dans la paix.
Avec la capitulation japonaise, la République de Chine reprend le contrôle de l'île de Taïwan. Mais pour les Taïwanais, ce retour dans le giron chinois n'est pas synonyme de libération. Le pouvoir autoritaire de Kuomintang s'abat sur une population qui est alors perçue comme collaboratrice de l'ancienne puissance coloniale et de l'ancien envahisseur japonais. Les Taïwanais voient débarquer sur place une administration qui fait main basse sur la plupart des ressources de l'île, au profit du continent et des fonctionnaires zélés, prompts à la violence et qui ne parlent même pas la même langue. Le 27 février 1947, une vendeuse à la sauvette de cigarettes d'un vieux quartier Taipei est interpellée par des inspecteurs du bureau du monopole gouvernemental du tabac. La vieille femme se rebelle avant d'être violemment frappée par les policiers. L'écho de cette violente arrestation se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Et s'ensuivent plusieurs jours d'une violence extrême. Jours durant lesquels des dizaines de milliers de Taïwanais sont enlevés, emprisonnés ou tués. L'incident 228, tel qu'il est resté gravé dans la mémoire taïwanaise, est encore aujourd'hui considéré comme un symbole de la répression de la Chine continentale sur l'île. C'est aussi le début d'une violente période de répression nationaliste de plus de 40 ans, appelée la Terreur blanche, symbolisée par la mise en place, quelques mois plus tard, de la loi martiale. Mais la répression que subit Taïwan s'applique aussi sur le continent. Car au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le général Chiang Kai-shek et son parti unique, le Kuomintang, sont encore loin de pouvoir revendiquer le contrôle sur un pays unifié et pacifié. Mais au nord, les troupes de la République de Chine font face à un puissant mouvement contestataire porté par le Parti communiste chinois et par son leader, Mao Zedong.
À Yenam, capitale de la Chine du Nord, 40 000 individus vivent comme des troglodytes. La surprenante fertilité de la terre et sa rareté ont incité les habitants à ne pas la gaspiller en bâtissant sur elle et à s'abriter plutôt à flanc de montagne. L'agglomération tout entière offre plus l'aspect d'un village géant que celui d'une ville. Cette étrange cité est la résidence de M. Mao Tse-tung, leader du Parti communiste chinois et chef des forces en lutte contre le gouvernement de Nankin. Par ses soins, la démocratie a été instituée à Yan'an. Et les élections ne sont pas le moindre souci de ses concitoyens. Certains d'entre eux sont en effet illettrés. Et pour émettre leur opinion, ils ont le choix entre le trou dans les bulletins, en regard du nom choisi, ou le dépôt de haricots dans les écuelles électorales. Curieux aspect du progrès, dans cette terre dont le visage reste immuable à travers les siècles.
Communistes et nationalistes reprennent les combats dès le lendemain de la capitulation de l'Axe et la Chine plonge à nouveau dans la guerre civile. Bien décidé à ne pas laisser les communistes s'emparer du pays, Chiang Kai-shek multiplie les alliances hasardeuses. Avec le Japon d'abord, à qui il demande de ne pas quitter trop vite certains territoires contrôlés par les forces de Mao. Puis avec les anciens responsables du gouvernement de collaboration. Il cherche aussi du soutien auprès des grandes puissances mondiales, tantôt les soviétiques, tantôt les américains. Des alliances qui sèment le trouble au sein d'une population qui peine à suivre. Il commet également des erreurs stratégiques, privilégiant ainsi la préservation de son pouvoir sur les grandes villes, laissant le champ libre aux communistes qui s'implantent facilement dans les régions rurales du pays. Résultat, Chiang Kai-shek cumule les revers militaires. L'armée populaire de libération de Mao Tse-tung, forte de centaines de milliers d'hommes, entame alors une marche inexorable vers le sud et les lieux où s'exerce le pouvoir despotique du Kuomintang. Les grandes villes tombent les unes après les autres. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung est à Pékin. Il se présente face à une foule immense sur le balcon de la majestueuse porte Tiananmen à l'entrée de la cité interdite. Et il proclame officiellement la création de la République populaire de Chine. Pourtant, face à cette implacable victoire communiste, le leader nationaliste Chiang Kai-shek refuse de reconnaître la défaite. Aujourd'hui, Taïwan.
Affaires sensibles sur France Inter.
En Chine, la retraite des nationalistes est générale.
Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Tse-tung. Refuant en même temps des dizaines de milliers des habitants des provinces envahies ont été jetés sur les routes de l'Exode. Spectacle d'une sombre tristesse dont notre époque est vraiment trop riche. Voici 22 ans cependant, le maréchal Chiang Kai-shek était accueilli comme un sauveur par les acclamations et les louanges d'un peuple qui attendait tout de lui. Aujourd'hui, Chiang s'apprête à l'exil. La Chine tourne une page.
Alors que Mao et le Parti communiste chinois s'emparent du pouvoir à Pékin, le général Chiang Kai-shek continue, lui, de croire en ses chances de renverser la situation. Mais il sait qu'il doit effectuer un repli stratégique en vue de sa reconquête. Et pour garantir sa sécurité, ainsi que celle de tout son appareil d'État, il met en application un plan imaginé déjà depuis plusieurs mois. Au mois de décembre 1949, le leader nationaliste prend le large en direction de Taïwan. Et avec lui, c'est tout son gouvernement, une grande partie des députés de l'Assemblée, des centaines de milliers de militaires et de civils qui prennent la mer vers l'île. En tout, près de 2 millions de Chinois du continent trouvent refuge sur les côtes de l'ancienne colonie japonaise. Chiang Kai-shek proclame Taipei capitale provisoire de la République de Chine. Il y établit sa base arrière pour une reconquête du continent qu'il espère rapide et glorieuse. À Taïwan, il se sait protégé. Même si l'armée populaire de libération de Mao est désormais forte de plusieurs millions de soldats, elle ne dispose pas de la flotte nécessaire pour franchir les 180 km du détroit de Taïwan. Replié sur son île, Chiang Kai-shek met le Kuomintang et la population en ordre de marche. La loi martiale est en œuvre et toute volonté de rébellion est violemment réprimée par les hommes de ce général admirateur des despotes soviétiques et qui fut un ami de Mussolini. Mais pour réussir son plan, il doit également compter sur le soutien de ses anciens alliés occidentaux. Si le monde tarde à réagir à la proclamation de la République populaire par Mao, il sait que son sort sera scellé. Et qu'en cas de reconnaissance du régime communiste, ses jours à la tête du régime de Taipei seront comptés. Et c'est grâce à l'équilibre fragile qui règne en Asie que le généralissime va parvenir à rester en place.
Séoul, capitale de la Corée du Sud, est brutalement passée au premier plan de l'actualité mondiale. Depuis sa libération par les forces russes et américaines en 1945, la Corée avait été coupée en deux zones d'influence limitées par le 38e parallèle. Violemment opposé au gouvernement sudiste à tendance américaine, le gouvernement nord-coréen d'inspiration communiste, prétextant des attaques de postes frontières, donnait subitement ordre à ses troupes de marcher sur Séoul. Dès le lendemain, le président Truman donnait l'ordre au général MacArthur de faire intervenir les forces navales et aériennes placées sous ses ordres pour appuyer la résistance des Coréens du Sud sur tout le territoire s'étendant jusqu'au 38e parallèle. L'attention du monde reste fixée sur la Corée.
Le déclenchement de la guerre de Corée en juin 1950 offre à Chiang Kai-shek un soutien inespéré des puissances occidentales bien déterminé à contrer la progression du monde communiste en Asie. Des deux côtés du détroit, désormais, la situation se fige. À Pékin, comme à Taipei, les deux leaders se revendiquent à la tête d'une Chine unique. Mais bénéficiant de l'indéfectible soutien de Washington, Chiang Kai-shek continue de croire en ses chances de reconquête et il tente de dérouler son plan. À la fin du mois d'août 1954, il ordonne le déploiement de plusieurs milliers de soldats à Matsu et Kemoi, deux petites îles sous contrôle taïwanais, situées à quelques kilomètres seulement des côtes de la Chine continentale. En réaction, Pékin déclenche des frappes d'artillerie sur les troupes nationalistes. Et la tension monte durant plusieurs semaines. Et l'allié américain de général Chiang Kai-shek intervient. La menace nucléaire est alors brandie par les conseillers militaires du président Eisenhower. Une menace suffisante pour que la tension finisse par retomber et que les deux ennemis parviennent à un compromis. À la suite de cette première confrontation, les États-Unis et la République de Chine ratifient un traité de défense mutuelle. La première crise du détroit de Taïwan prend fin et le statu quo prévaut. Mais la situation se tend de nouveau 2 ans plus tard. Durant l'été 1958, alors qu'Américains et Soviétiques doivent se rencontrer pour la première fois dans le cadre d'un sommet sur la guerre froide, Mao Tse-tung décide de remettre la question taïwanaise sur le devant de la scène internationale.
Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin.
L'artillerie côtière communiste poursuit le bombardement de l'île Kemoy et les nationalistes ont riposté. Madame Chiang Kai-shek, femme du chef des nationalistes chinois, a déclaré à son arrivée à Los Angeles « Les communistes ont l'esprit si tortueux qu'on ne peut jamais dire avec certitude quels sont leurs projets. » Elle a ajouté que le bombardement de Kemoy était une opération de sondage, bien que l'on ne puisse exclure la possibilité d'une invasion. Une attitude de fermeté de la part du monde libre peut faire reculer les communistes, a-t-elle conclu.
Durant plus d'un mois, et malgré la présence de navires américains, les forces communistes font pleuvoir les obus sur les petites îles de Matsu et Kemoy. Mais les 470 000 projectiles communistes et les dizaines de missiles sol-air nationalistes ne changent rien. Encore une fois, le conflit se solde par un cessez-le-feu. Et encore une fois, la situation s'affiche dans le marbre. La lutte que se livrent Pékin et Taïwan n'est pas que militaire, elle est aussi diplomatique. Et sur ce terrain-là, c'est bien Chiang Kai-shek qui bénéficie d'un avantage. Car malgré l'exil de son gouvernement, c'est bien la Chine nationaliste qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vainqueur de la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés, Chiang Kai-shek n'a pas perdu son siège. D'ailleurs, presque toutes les grandes puissances mondiales continuent de reconnaître le gouvernement de Taipei comme seul représentant légitime de la Chine à travers le monde. Mais c'était sans compter sur la marche de l'histoire. Au début de la décennie 60, plus de 10 ans après la proclamation de la République populaire par Mao, les grandes puissances mondiales commencent à comprendre que la situation ne peut pas durer comme ça. Malgré les protestations de Taipei, plusieurs d'entre elles intensifient leurs échanges diplomatiques avec Pékin. Et si le Royaume-Uni joue un double jeu entre les deux entités chinoises, c'est bien la France qui va être la première à officialiser un changement de doctrine. En janvier 1964, en effet, le gouvernement du général de Gaulle annonce la reconnaissance officielle de la République populaire de Chine de Mao.
Il s'agit, a dit le général de Gaulle, de reconnaître le monde tel qu'il est. Et dans ce sens, il n'est pas possible d'oublier à l'autre extrémité du continent européo-asiatique cette Chine, un état plus ancien que l'histoire où un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation, ce peuple conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, la Chine de toujours. Comment laisser à l'écart cet immense pays en pleine évolution, ce peuple innombrable en marche? C'est ce qui apparaît avec le poids de l'évidence et de la raison. Ce vide, la France va le combler, renouant ainsi avec un peuple dont la capacité patiente et laborieuse a toujours suscité l'admiration.
En prenant cette décision, tout en continuant à entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan, la France espère peut-être encourager les dirigeants nationalistes et communistes à trouver une solution à 2 États. Mais ni Mao, ni Chiang Kai-shek n'abandonnent le rêve d'une Chine unique. Pourtant, en campant sur sa position, le leader nationaliste chinois ne peut que constater amèrement le cours de l'histoire. Car après la France, les autres grandes nations commencent à envisager une reconnaissance officielle de la Chine communiste, contrainte, il est vrai, par une réalité géopolitique devant laquelle plus personne ne peut reculer. En 1971, Chiang Kai-shek comprend que les dés sont jetés et qu'il ne peut plus conserver son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, avant même que l'Assemblée générale ne puisse se prononcer sur son sort, Taïwan annonce son retrait unilatéral de l'instance internationale et il laisse le champ libre à la République populaire de Chine, prête à prendre la place. Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale se réunit à New York et procède au vote de la résolution 2758.
France Inter, 8h.
Thank you.
Interactualité, René Duval.
Bonjour. La République populaire de Chine est membre des Nations Unies. Le monde retiendra cette soirée du 25 octobre pour les Américains ou cette nuit du 25 au 26 pour nous, Européens. À trois semaines près, il y a exactement 22 ans que la Chine de Pékin demandait son admission. Les 750 millions de Chinois vont donc maintenant avoir une voix à l'ONU, au même titre que les 300 000 habitants du Grand-Duché de Luxembourg.
Des grandes puissances, seuls les États-Unis restent aux côtés de leur allié taïwanais et votent contre l'intégration de la République populaire de Chine. Mais rien n'y fait. Avec la perte de son statut diplomatique, et même s'il ne le dit jamais publiquement, Chiang Kai-shek semble abandonner son rêve de reconquête. Il se concentre alors sur le développement de l'économie taïwanaise. Dans un pays qu'il dirige toujours d'une main de fer, où toute contestation politique est prohibée, et dans lequel les opposants sont jetés en prison sans aucune forme de procès, il a les mains libres pour faire de Taïwan une puissance économique majeure. Le Kuomintang mise alors sur le développement industriel à grands frais. Et Taïwan devient leader de l'industrie du textile. Ses usines exportent dans le monde entier une politique de développement qui porte ses fruits. Car en quelques années, l'île devient une puissance économique majeure sur le plan régional.
France Inter, il est 22h. Intersoir, 3e, Paul Amar.
Chiang Kai-shek est mort. Le président de la Chine nationaliste a succombé à une crise cardiaque. Il avait 88 ans. Il était à la tête de Formose depuis 1948. Ce militaire de carrière s'était battu toute sa vie contre le communisme. Il rêvait de reconquérir la Chine de Mao. Il avait formé pour cela une armée de 600 000 hommes. Et l'on se demande maintenant comment la Chine nationaliste va vivre l'après Chiang Kai-shek.
La mort de Chiang Kai-shek le 5 avril 1975 et celle de son éternel rival Mao Tse-tung un an plus tard, le 9 septembre 1976, marquent un tournant pour les deux Chines. À Taïwan, c'est Chiang Ching-kuo, le fils du général, qui prend la tête du pays. Conscient des enjeux qui entourent le futur de l'île, celui qui a étudié en URSS durant plusieurs années décide d'engager Taïwan dans une révolution aux multiples aspects. D'un point de vue démocratique, d'abord. Il prend une décision qui va changer la face du pays. Il ouvre progressivement aux Taïwanais les portes du Kuomintang, le parti unique, et de l'administration. Changement de paradigme. Car jusqu'ici, et sous le règne de son père, seuls les Chinois du continent, arrivés lors de l'exil de 1949, avaient droit de prendre part à la vie politique locale. La langue taïwanaise est désormais autorisée et la culture ancestrale mise en avant. Dans les années qui suivent, on ouvre l'île aux grands fondements des démocraties modernes et on autorise les différents courants politiques à s'exprimer publiquement. On libéralise les médias et on décide de rompre avec l'endoctrinement puissant de la population qui sévissait sous Chiang Kai-shek. C'est un changement radical pour les Taïwanais habitués jusque-là au culte de la personnalité et à l'embrigadement dès le plus jeune âge. Comme le raconte une citoyenne taïwanaise, dans le documentaire intitulé « De Formosa, Taïwan, une île dans la tourmente ».
La propagande politique faisait partie de notre quotidien. Dès le matin, nous devions chanter l'hymne national, nous incliner devant notre grand leader Chiang Kai-shek. Dans nos cahiers, nous devions mémoriser des essais de Chiang Kai-shek. Vous savez, il était notre leader absolu. Nous devions écrire nos propres essais, expliquant que nous devions récupérer la Chine, récupérer la culture chinoise, la reprendre aux bandits communistes, c'est comme ça qu'ils les appelaient à l'époque. On nous apprenait que nous étions chinois et pas taïwanais. On nous interdisait de parler taïwanais à l'école. Si nous parlions taïwanais, nous devions nettoyer les toilettes. C'était notre punition.
Le nouveau dirigeant de la République de Chine décide également d'accélérer le développement économique de l'île, engagé quelques années plus tôt. Là où son prédécesseur avait fait de Taïwan une usine géante de l'industrie textile, il décide, lui, de s'engager dans un virage technologique majeur. Il mise sur le potentiel extraordinaire de l'informatique et de la maîtrise de technologies complexes. Résultat, en quelques années seulement, la République de Chine devient un acteur central de cette économie d'avenir. Sur le continent également, la mort de Mao change la donne. La Chine se concentre désormais sur son propre destin. Il faut ainsi sortir la population chinoise de la pauvreté extrême dans laquelle elle vit et engager le pays dans l'ère de la modernisation. point de vue diplomatique, enfin, la situation continue d'évoluer, elle aussi. En 79, et après une décennie de normalisation des relations, les États-Unis reconnaissent enfin l'existence officielle de la République populaire de Chine. Après une première visite de Richard Nixon à Pékin en 72, c'est le président Jimmy Carter qui officialise ce tournant diplomatique. Condition sine qua non posée par Pékin tout de même, cette reconnaissance doit entraîner une rupture des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Une condition acceptée par Washington, qui renouvelle toutefois son soutien militaire à l'île et qui parvient à garder un pied sur chaque rive du détroit. Si la doctrine de Pékin n'a pas changé vis-à-vis Taipei, sa stratégie évolue. Il n'est pas question pour l'heure d'une action militaire, mais bien de forcer le destin et la main des responsables taïwanais. Et pour cela, les dirigeants chinois misent sur l'intégration économique. Les liens entre les deux entités sur ce terrain existent déjà, on l'a dit. Pékin encourage même les entrepreneurs taïwanais à investir massivement en Chine continentale. D'abord dans le cadre d'un mouvement discret, puis bien plus ouvertement depuis la fin des années 80. Grâce à ces liens économiques étroits et à l'ouverture des frontières progressives dans les années 90, Pékin espère ainsi que la solution de la réunification pacifique apparaisse comme une évidence et que Taïwan tombera dans les mains de la Chine comme un fruit mûr. Et pour donner encore plus de matière à réflexion aux élites de Taipei, elle offre même une solution sur mesure. La politique dite du « un pays, deux systèmes ». Cette idée est proposée dès 1982 par Deng Xiaoping à un autre territoire chinois, Hong Kong. En vue de la rétrocession par les Britanniques de ce petit territoire au sud du pays, le dirigeant communiste offre la garantie Hong Kong et à l'ancienne puissance coloniale de continuer à bénéficier du modèle occidental tout en réintégrant la République populaire. À quelques jours de la rétrocession, en juillet 97, le président chinois Jiang Zemin, interviewé sur France 2, se montre enthousiaste.
Cet événement signifie que la Chine pourra enfin tourner la page de l'humiliation qui lui a été infligée il y a plus d'un siècle. Après le règlement avec les Britanniques et l'idée novatrice du camarade Deng Xiaoping, un pays, deux systèmes. Nous avons pu trouver une solution idéale à toutes les questions léguées par le passé. Les affaires de Hong Kong seront gérées par les habitants de Hong Kong et bénéficieront d'un haut degré d'autonomie. Tous les habitants pourront jouir, comme par le passé, des droits et des libertés. Je pense que c'est un point incontestable. J'ai la conviction que ces affaires seront très bien gérées. En ce qui concerne l'économie, il n'y a aucun doute, la prospérité et la stabilité profiteront à tous. Je pense que le monde entier doit être confiant dans l'avenir de Hong Kong. Ma confiance à moi est absolue.
Cette solution du « un pays, deux systèmes » est également proposée aux dirigeants taïwanais. Mais en 1996, la doctrine perd de son sens lorsque Taïwan élit son premier président originaire de l'île au suffrage universel direct. Avec ce vote populaire, le retour au système autoritaire chinois semblait désormais impossible. Une élection qui provoque même la troisième crise du détroit, durant laquelle l'artillerie chinoise bombarde à nouveau des possessions taïwanaises. Depuis le début des années 2000 et l'arrivée au pouvoir des indépendantistes taïwanais, les relations avec le grand voisin chinois sont fluctuantes. Même le Kuomintang, le parti historique de Chiang Kai-shek, prend aujourd'hui ses distances avec l'idée d'une possible réunification. Malgré les tentatives de déstabilisation du régime de Pékin, la démocratie taïwanaise continue de progresser, au point d'être considérée aujourd'hui comme l'une des plus abouties de la planète. Reconnu comme pays par seulement 7 petits États dans le monde, Taïwan parvient désormais à faire vivre une diplomatie parallèle, incitant les grandes puissances à envisager une solution à deux États. Mais si le statu quo prévalait jusque-là, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 et le tournant autoritaire de son régime pris au fil de ses mandats successifs laissent planer le doute quant à l'avenir de Taïwan. La loi sur la sécurité nationale promulguée à Hong Kong en 2020 ne laisse pas la place au doute quant à la vision du leader de la République populaire de Chine et rend encore plus illusoire la proposition du « un pays, deux systèmes » proposée à Taïwan. Mais pour le dirigeant chinois, plus stratège que ses prédécesseurs, l'enjeu stratégique de la reconquête de Taïwan est crucial. Il n'est plus uniquement question d'un narratif historique auquel les responsables du Parti communiste sont attachés, mais bien d'un contrôle de la mer de Chine et de l'ouverture sur le Pacifique sur lequel les forces navales américaines sont toujours bien présentes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier Taïwan dont nous parlons avec notre invité Pierre-Antoine Donnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur de l'ouvrage « Chine, le grand prédateur » et plus récemment du dossier chinois « Portrait d'un pays au bord de l'abîme », ouvrage collectif paru fin octobre 2022 au Cherche Midi et dont on dira un mot tout à l'heure. Vous avez été le correspondant de l'AFP en Chine. À quelle période ?
Écoutez, j'y suis resté presque 6 ans entre 1984 et 1989.
Donc vous avez connu Tiananmen, le soulèvement de Tiananmen, juin 89.
Mais surtout, bien sûr, ça a été une époque tout à fait dramatique, mais c'était une époque charnière, parce que c'était la fin de la révolution culturelle, et les Chinois avaient énormément envie de parler de ce qu'ils avaient vécu, et c'était aussi le lancement par Deng Xiaoping des réformes économiques qui ont mis les Chinois au travail.
Alors, on va commencer par une question d'actualité, toute chaude. Cette semaine, la présidente de Taïwan, en visite officielle au Belize et au Guatemala, qui sont deux des 7 pays qui reconnaissent Taïwan. Il n'est pas exclu, c'est là que c'est plus compliqué, qu'elle aille aux États-Unis dans la foulée. Alors, la Chine avertit qu'elle ripostera, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ripostera, probablement diplomatiquement, si elle rencontre le président de la Chambre des représentants. Et pendant ce temps, le président de Kuomintang, lui, se rend en Chine, à Pékin, pour un voyage officiel. Comment interpréter tout cela ?
Bah écoutez, le voyage de Mme Tsai Ing-wen, avec une étape, deux étapes même aux États-Unis, n'a rien de surprenant. Elle s'y est déjà rendue à plusieurs reprises dans un voyage qui l'amène en Amérique latine, où effectivement il reste quelques pays qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan. La différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il est fortement question qu'elle rencontre donc le successeur de Mme Pelosi, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et cette rencontre sur le sol américain donne une dimension un peu différente à son séjour. Alors, pour parler de la visite de l'ancien président de Taïwan, du Kuomintang en Chine populaire, Bien sûr, il prend bien garde de ne pas aller à Pékin et de ne pas rencontrer Xi Jinping. Mais malgré tout, vous savez, aujourd'hui, il y a un décalage ahurissant entre la réalité d'aujourd'hui à Taïwan et le désir, à l'époque du Kuomintang, de trouver une solution avec Pékin.
Attends, le leader du Kuomintang va en Chine, mais il ne va pas à Pékin, c'est ce que vous me disiez ?
Non, parce que là, le symbole serait désastreux pour le Kuomintang, ouais, qui est en perte de vitesse depuis déjà longtemps à Taïwan. Et je pense que pour cet ancien président, c'est un geste désespéré pour... Bien sûr, il va être accueilli avec tous les honneurs là où il ira en Chine populaire, mais ce voyage passe très mal dans la population taïwanaise, en particulier chez les jeunes.
Et pourtant, on pourrait penser que ça passe mal, vu l'historique entre les communistes de Mao et Chiang Kai-shek. On pourrait penser que c'est... Et vous me dites que c'est les jeunes. Pourquoi c'est les jeunes ?
Écoutez, en fait, Taïwan aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec Taïwan dont vous décriviez la situation sous Chiang Kai-shek.
Bah oui.
Vous avez bien dit, vous avez tout à fait raison de souligner que c'est le fils de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, qui avait à l'époque semé les graines de la démocratie à Taïwan. Et depuis l'arrivée de Tsai Ing-wen au pouvoir, les choses ont considérablement changé. Aujourd'hui, c'est une société ouverte. On parle de tout à Taïwan. Et d'une façon très décontractée. Il n'y a pas de sujet tabou. Mmh. Il y a une presse entièrement libre. Alors qu'en face, sur le continent chinois, c'est l'extrême inverse.
Bien sûr. D'ailleurs, on l'a dit, c'est même l'une des démocraties les plus abouties aujourd'hui.
Mais tout à fait.
C'est fou quand même.
Bien sûr.
Quand on voit d'où ils viennent.
Mais vous savez, je vais vous dire, en Asie, c'est la démocratie la plus aboutie devant le Japon.
Devant le Japon.
Ah non, mais c'est très clair. Parce qu'au Japon, il reste beaucoup de pesanteurs bureaucratiques, avec un machisme ambiant qui reste très fort. Alors qu'à Taïwan, on a une présidente, qui est une femme. Dans son gouvernement, il y a plusieurs femmes, dont, tenez-vous bien, une femme transgenre, Madame Audrey Tang, qui est ministre des technologies. Et c'est extraordinaire. Et Taïwan, c'est le seul pays en Asie où on reconnaît maintenant le mariage de même sexe.
D'accord. Alors, on a parlé de ce contexte d'un même pays, mais deux systèmes. Alors, c'est le statut de Hong Kong, par exemple, comme quoi c'est possible. Un système qui permet à Hong Kong de conserver son système légal, sa monnaie, son système politique, autrement dit la démocratie et le multipartisme. Ça va jusqu'à ses équipes sportives internationales, ses lois sur l'immigration, son domaine Internet, HK pour Hong Kong, son indicatif téléphonique et son code de la route, conduite à gauche. Et ce, jusqu'en 2047. Même chose pour Macao, c'est toujours le même concept, comme quoi c'est possible, mais pas pour Taïwan. Pourquoi ?
Vous savez, non, c'est pas possible, parce que ce concept d'un pays, deux systèmes, qui avait donc été inventé par Deng Xiaoping quand il avait reçu Madame Margaret Thatcher pour la contraindre à signer un accord sur la rétrocession de Hong Kong, cette promesse n'a pas été tenue du tout.
Ouais.
Elle a été trahie, alors de façon flagrante, en 2020, quand les autorités centrales à Pékin ont imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui a eu pour effet de réduire au silence, mais alors de façon totale, toute dissidence, même la plus petite. Mmh. Donc ça a sonné le glas de cet instrument politique dont voulait utiliser Pékin pour séduire Taïwan. C'est fini, ça.
On va se retrouver dans quelques minutes, Pardon, on pourrait écouter Bertrand Belin, La Nouvelle.
Thank you.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Pierre-Antoine Donnet, aujourd'hui il y a 24 millions d'habitants à Taïwan. Quelle est l'aspiration majoritaire de la population entre sentiment d'appartenance nationale, volonté d'indépendance, on peut dire ça comme ça, ou une volonté d'une Chine unifiée avec, j'imagine, sauvegarde quand même de la démocratie comme préalable?
Alors, d'abord, il faut dire que sur ces 24 millions d'habitants, 2% sont des aborigènes d'origine et qui, en fait, c'était le premier peuplement de Taïwan. Ils sont arrivés bien avant les Hollandais et les Chinois et les autres. Et puis, à peu près, un peu plus de 80% de Taïwanais de souche. C'est-à-dire qu'ils sont nés à Taïwan, dont les parents sont nés à Taïwan, et qui donc représentent le courant majoritaire. Et à côté de ça, ils ont un peu moins de 20%, en chinois on dit Wai Shangren, c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'extérieur, donc sur le continent chinois, et dont la plupart sont arrivés avec Chiang Kai-shek. Alors, après cette cohabitation difficile dont vous avez parlé tout à l'heure, aujourd'hui les esprits se sont vraiment apaisés. Mais, en tout cas, l'évolution, elle est très nette. C'est que il y a un sentiment majoritaire et qui ne cesse de croître des Taïwanais d'être Taïwanais et non chinois. Ouais. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que là, on voit bien à quel point Taïwan devient une entité différente du continent chinois qui présente cette fameuse, entre guillemets, réunification comme de plus en plus illusoire. Vous savez, aujourd'hui, quand les sondages le montrent, le dernier, il a été réalisé en juin 2022 par un institut de sondage qui fait autorité à Taïwan et qui montre que 64% des personnes interrogées se disent Taïwanais et non chinois. Et la proportion est de 83% chez les jeunes.
Et donc tous rêvent, tous ces gens rêvent d'indépendance.
Alors, vous savez, le mot indépendance, c'est évidemment un mot, c'est une ligne rouge pour
Bien
Pékin.
Bien sûr, pour Pékin, évidemment.
Voilà, donc la présidente Tsai Ing-wen s'en sort très bien en disant qu'il n'y a nul besoin de prononcer l'indépendance vu que de facto, le pays est déjà indépendant du fait de son armée, de son gouvernement, tout ça. Mais il y a un fort sentiment au sein de la population de déclarer l'indépendance, mais qui est freiné par cette perspective que s'il y avait un jour une déclaration formelle d'indépendance, cette ligne rouge serait franchie, et là il y aurait un risque très réel de conflit armé.
Bien sûr. Alors la présidente actuelle ne peut pas se représenter, je crois, elle a déjà effectué ses deux mandats. Vers quoi se dirige-t-on?
Elle a déjà à peu près désigné son successeur. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est très ouvert sur la situation internationale, qui a déjà beaucoup voyagé, qui évidemment parle excellemment l'anglais. Donc on va voir, dans les élections locales il y a quelques mois, on a vu une résurgence du Kuomintang, mais pour des raisons vraiment très locales. En fait, le soutien au DPP, donc le parti de Tsai Ing-wen, reste très très fort.
Comment la Chine et Xi Jinping se positionne-t-il vis-à-vis des échéances électorales à Taïwan? Je veux dire, est-ce que le régime chinois tente d'interférer dans le processus? Et si oui, comment? Ou comme les Russes avec les cyberattaques, notamment, pour d'autres pays?
Alors, d'abord, je voudrais souligner que ce désir de, entre guillemets, réunification, c'est d'ailleurs un terme impropre, parce que jamais le régime communiste n'a administré Taïwan, existe effectivement depuis la prise de contrôle de la Chine populaire par Mao Zedong en 1949. Mais tout cela est devenu affirmé d'une façon très radicale depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Alors non seulement il dit que jamais le gouvernement de Chine populaire ne renoncera à l'usage de la force, si nécessaire, mais aujourd'hui il dit que cette réunification devra nécessairement être réalisée dans la présente génération. Donc ça donne un ordre d'idée, est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, en tout cas, le timing est là. Alors bien sûr, ça c'est... Vous savez, les services chinois sont très expérimentés pour tout ce qui est désinformation, et hacking. Donc évidemment, ils ont cherché à peser sur les dernières élections. Comme la presse taïwanaise est ouverte, il y a de multiples moyens pour peser sur l'opinion. Mais les effets sont extrêmement limités pour le moment.
C'est des coups d'épée dans l'eau pour l'instant.
Oui.
Est-ce que l'Amérique considère que Taïwan fait partie de son précaré, enfin l'un de ses nombreux précarés hors et loin de ses frontières?
Vous savez, il y a plusieurs raisons qui font que le président Joe Biden a déclaré par quatre fois que s'il y avait un conflit armé déclenché par Pékin à Taïwan...
Ah, on y arrive.
Voilà.
La question oxygène.
Oui, tout à fait.
Elle est bien là.
Et voilà. Et en fait, il l'a dit quatre fois et pas une seule fois. Donc, de la part de quelqu'un qui a 80 ans, dont on pouvait penser qu'il a commetté quelques bourdes, non, c'est très clair. S'il y a conflit armé, les États-Unis soutiendraient Taïwan. Sous quelle forme, ça n'est pas dit pour des raisons évidentes. Mais à cela, plusieurs raisons. La première raison, à mon sens, c'est la moins importante, c'est que Taïwan est devenu un bastion de la démocratie. Et si vous voulez, c'est un démenti formel et quotidien de ceux qui ont encore affirmé, il y a, je sais pas, quelques années, que la démocratie n'est pas faite pour le peuple chinois. Deuxième raison, c'est parce que c'est aussi le bastion des hautes technologies, et en particulier des semi-conducteurs. TSMC, donc... le grand producteur de semi-conducteurs est taïwanais. À lui tout seul, il représente plus de 52% de la production mondiale de semi-conducteurs, une proportion qui passe à 93% sur les semi-conducteurs de dernière génération, c'est-à-dire qui sont gravés à 5 nanomètres et moins. La troisième raison, elle est géostratégique, et pour moi c'est la plus importante.
Alors,
c'est parce que Taïwan, c'est en fait un verrou qui commande l'ouverture sur tout le Pacifique. Et... cette région, c'est le centre de gravité du développement économique du monde de demain. C'est déjà le cas depuis plusieurs années, depuis une bonne décennie, mais ça ira en s'accélérant. Si Taïwan tombe, ce verrou tombe, et la crédibilité des États-Unis dans la région s'effondre immédiatement auprès de tous ses alliés, en particulier du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie.
Pensez-vous Xi Jinping assez sage pour ne pas passer le Rubicon ?
Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un évidemment très calculateur, qui est très intelligent aussi, qui est raisonné. En même temps, aujourd'hui, son pays est confronté à de multiples défis, que ce soit économique, avec une croissance du PIB qui est en train de dégringoler à grande vitesse, du fait aussi d'une démographie en berne, et aussi de cette alliance de facto en face de la Chine qui est en train de croître. Alors, c'est une question de légitimité pour le Parti communiste chinois et en particulier pour Xi Jinping. Alors, arrivera-t-il un jour où, sentant le sol se dérober sous ses pieds, ce qui peut arriver, en arrivera-t-il à ce moment-là à une décision irrationnelle ? Ça n'est pas impossible et dans ce cas-là, effectivement, c'est tous les dangers.
Oui. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage collectif que vous avez fait paraître fin octobre dernier au Cherche Midi, le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme. Alors, on n'a pas le temps, c'est dommage, il ne nous reste que 5 secondes. Je voulais savoir pourquoi il était au bord de l'abîme, en deux mots, on peut le résumer ou pas ?
Mais parce qu'au sein du pays même, il y a une contestation qui est en train de s'organiser.
D'accord.
Il y a un mécontentement social qui croît.
Très bien. Merci infiniment, Pierre-Antoine Donnet, de
merci
tous
à vous.
Vos éclairages sur cette région du monde. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Taïwan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.